Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier chef, le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de tout le peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour les amis, vous allez bien? Bonne année à tous. Aujourd'hui, c'est la solennité de l'épiphanie du Seigneur. L'épiphanie signifie la manifestation de notre Seigneur au roi. Après s'être manifesté aux innocents, aux enfants, aux bergers, il se manifeste aujourd'hui aux mages et à travers les mages à l'humanité tout entière. Nos amis orthodoxes ne parlent pas d'épiphanie, mais parlent de théophanie. Théophanie signifie aussi manifestation du Seigneur. C'est la présentation ou la reconnaissance officielle de Jésus comme étant le Messie, celui qui vient de Dieu pour sauver son peuple. Et pour exprimer cela, les lectures que nous venons d'entendre sont remplies de messages d'espérance. Quand bien même la situation dans la première lecture n'était pas si tendre que cela pour le peuple de Dieu. Nous sommes dans ce que l'on appelle le troisième Isaïe, c'est la dernière partie du livre du prophète Isaïe, et à l'époque, Jérusalem a été détruite. Le peuple de Dieu était en exil et est revenu à Jérusalem. Mais au retour, comme Jérusalem a été détruite, comme le temple a été détruit, le peuple était un peu comme bouleversé, chamboulé, ne savait plus à quel saint se vouer, parce que le peuple de Dieu ne peut pas vivre sans la présence effective de Dieu en son sein. À travers le temple, il fallait donc reconstruire le temple. Et c'est là le point de tous les dangers. Ceux qui sont restés ont dit qu'ils veulent participer à la reconstruction du temple de Dieu. Mais à condition que eux aussi viennent rendre le culte païen à l'intérieur du temple. Vous comprenez donc que Israël ne puisse pas être d'accord. Et donc, les conflits ont commencé. Et le prophète rassure le peuple en disant, « Nous allons reconstruire le temple sera pour le culte, l'unique culte à Yahvé. » On est un peu comme dans un tunnel. Et les propos d'Isaïe que nous venons d'entendre, qui nous dit que Dieu va se manifester à l'intérieur de ce conflit, que la lumière de Dieu va resplendir. Il donne donc un message d'espoir, comme quoi le bout du tunnel est proche. C'est comme si nous sommes encore dans la nuit, mais le jour est proche. Et vous ne m'empêcherez pas de dire ceci. Debout resplendis, car voici ta lumière. Debout resplendis, car voici ta lumière. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portent sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Eh bien, il y a des raisons pour Jérusalem de chanter et de danser pour son Dieu, car le temple de Dieu va être reconstruit, Dieu se fait présent au milieu de son temple, il se manifeste. Dieu présent dans le temple, cela signifie le mystère même de Dieu. C'est ce que dit saint Paul dans la deuxième lecture. Le mystère au sens de saint Paul ne signifie pas quelque chose de caché, quelque chose de lointain, quelque chose de réservé qu'à une élite. Ça, c'est le mystère au sens gnostique. Vous savez, chez les gnostiques, c'est un courant de pensée qui appartenait à un monsieur très dangereux qui s'appelait ou qui s'appelle Valentin. Mais pour saint Paul, le mystère signifie Dieu se montre à nous. Et quand Dieu se montre à nous, il révèle à chacun non seulement qui lui, Dieu, est, mais qui chacun de nous est. Et pour manifester cela, nous avons deux tableaux dans l'évangile que nous venons d'entendre. Le premier tableau est celui que révèlent les mages. On nous dit qu'ils sont trois. La tradition dit qu'ils sont des scientifiques, qu'ils sont des savants. La tradition dit aussi que ces mages représentent l'humanité tout entière. Ils ont fait un détour par Jérusalem, comme pour dire que l'achèvement, l'accomplissement, la fin de celui qui se manifeste à nous sera à Jérusalem. Souvenez-vous de la première lecture, Jérusalem, le temple, la présence de Dieu. Et puis, ces mages sont allés vers Jésus. Quand ils ont vu l'enfant, ils se sont prosternés. Je pense, on dit chez moi, que l'homme n'est grand qu'à genoux. Les vrais grands sont ceux qui savent se mettre à genoux devant la grandeur de toutes les grandeurs. Et puis, ces mages ont offert au petit Jésus de l'or, comme pour manifester sa divinité ou sa royauté. De l'encens, comme pour manifester sa divinité, et de la myrrhe, comme pour dire que le Verbe fait chair était auprès de Dieu et qu'il va retourner à Dieu, c'est le prologue de Jean, et que ce Verbe de Dieu est venu nous conférer l'incorruptibilité. C'est tout simple. C'est-à-dire qu'il va nous élever de notre, nous enlever même de notre état de finitude à un nouvel état d'infinitude, de vie après la mort, qui va être une vie éternelle. Le premier jour de l'an, je disais que le Verbe fait chair est un être là. Il est là au milieu de nous. Et il est tellement là au milieu de nous qu'il se fait un être avec nous. Je dirais vulgairement, il se fait un peu notre ami, notre pote. Vous voyez? Et donc, avec les mages, voilà ce que nous avons. Et nous qui suivons Jésus, nous sommes appelés à nous mettre à genoux pour l'adorer. Saint Paul le dit, tout genou fléchira, au ciel, sur terre et aux enfers, et toute langue doit proclamer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et puis, j'en viens au deuxième tableau. Le deuxième tableau, c'est celui de ceux qui détiennent un pouvoir, mais un pouvoir terrestre, avec la figure d'Hérode. Je monte un peu dans l'histoire. Vous savez, dans la République de Platon, Platon disait qu'il ne faut pas consacrer ou concentrer tous les pouvoirs dans les mains d'un seul, parce que celui-là finit par se prendre pour un dieu. Donc, Platon dit, évitons de mettre tous les kratos, tous les pouvoirs dans les mains d'un seul. Et Platon sera commenté par un auteur anglais qui s'appelle John Lord Acton. Et lui, il dit, le pouvoir rend fou. Et Montesquieu de le commenter en disant, le pouvoir corrompt. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Pourquoi j'en parle? Simplement parce que Hérode, qui régnait sur le peuple élu à l'époque de Jésus, avait tous les pouvoirs dans ses mains. Ce monsieur Hérode, est un, sa famille s'est convertie au judaïsme, mais c'était un païen converti, ses parents se sont convertis 100 ans plus tôt au judaïsme, donc il est devenu quand même roi des Juifs, et à son époque, il se disait que le vrai Messie va naître bientôt, qu'il sera la lumière de son peuple. Et puis, débandade totale dans la tête d'Hérode. Comment est-ce qu'il y aura sur terre un autre Dieu que lui? Vous voyez, finalement, il a confondu son pouvoir avec le vrai pouvoir. L'homme n'est grand qu'à genoux. Il a oublié cela. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Un, il avait une deuxième femme qui s'appelait Marianne. Il a fait tuer Marianne. Parce que Marianne avait un frère qui s'appelait Aristobule III. Il a tué Aristobule III. Donc, parce qu'il pensait que Marianne allait manigancer pour que son frère, à elle, devienne le roi. Et ce n'est pas fini. Il a fait tuer deux de ses garçons, les plus brillants, Alexandre et Aristobule IV. Comme quoi, il ne voulait pas partager son pouvoir. Et le pire du pire, c'est qu'il a massacré tous les enfants de moins de 2 ans, pour être sûr que lui, il va rester le roi. Pour combien de temps? J'en sais rien. Vous voyez donc deux tableaux. Devant le mystère du Verbe fait chair qui se présente à nous, qui se révèle à nous, on peut soit adopter le positionnement des mages, soit adopter le positionnement de Hérode et des grands prêtres et scribes, comme nous le dit l'évangile d'aujourd'hui. Je résume tout cela avec saint Augustin, qui dit ceci. Deux amours ont fait deux mondes. L'amour de Dieu au mépris de soi, c'est un peu ce que les mages ont fait. L'amour de Dieu au mépris de soi a créé la vie céleste, le royaume de Dieu. Et l'amour de soi au mépris de Dieu a créé le monde terrestre qui est fini, qui est éphémère et qui tend à disparaître. À chacun donc de se positionner, soit en se mettant à genoux comme les mages, soit en se retrouvant dans le positionnement d'Hérode. En tout cas, nous sommes venus ici adorer le Verbe fait chair qui est notre Sauveur et notre Seigneur, qu'il nous aide à toujours être à lui et à pouvoir toujours l'adorer. Amen.